loupe les meilleurs quand même.
Bonjour et bienvenue à tous pour ce podcast de la rédaction sur les jeux, sur console, sur Thomas, sur Plume, sur Jenny One qui sont avec nous aujourd'hui. Ça va, messieurs?
Ouais, salut.
Bonjour.
On était sortis sur console.
J'ai fait un lancement bordélique juste pour voir si la connexion allait tenir.
Moi, ça a un peu merdé chez moi, je vous avoue.
comme vous le voyez, on est tous un peu éparpillés. Plume boit de l'eau en ce moment même. Ouais. Par contre, Plume, je te vois en noir et blanc, c'est normal ou...
Oh, ça recommence. Déjà, la semaine dernière, vous m'avez fait la remarque, je ne sais pas pourquoi.
C'est parce que c'est un mec vintage, c'est pour ça.
Ouais.
Bon, tout le monde va bien, bonne année, bonne santé, encore une fois, à tous et à toutes. Benny One qui se gratte les cheveux et qui fait tiep.
Bonjour. Bon,
j'espère que tout le monde m'entend correctement et bien, parce que je vous vois un peu en slideshow, là, j'ai un peu peur.
Mais, t'inquiète pas, c'est comme dans la vraie vie, on t'entend bien.
Exactement. Et bien, comme vous le savez, c'est le podcast 550 de la
rédaction.
Et comme toujours, on va vous parler de l'actualité de la semaine, avec notamment Monster Hunter Rise, Hitman 3, auquel Plume a joué. Il y aura aussi du Super Meat Boy Forever, avec Thomas. Et comme toujours, et bien, écoutez, on commence avec le win et le fail de la semaine. Et le win de la semaine, c'est Thomas qui va s'écoller. Thomas, qu'est-ce que tu vas nous raconter cette semaine sur le win? Un truc qui t'a vraiment ému jusque là, ou pas?
Oui, alors, point trop d'info, évidemment, mais on va quand même commencer cette année 2021 avec une bonne nouvelle, pour le coup, pendant que ça dure, puisque se terminait ce week-end l'édition 2021 de l'Awesome Games Done Quick, un marathon qui s'est étalé du 3 au 10 janvier et qui, eh bien, comme chaque année depuis maintenant 10 ans, streamait en fait des speedrunners pour récolter des fonds pour l'association qui s'appelle Prevent Cancer Foundation, donc l'association de lutte contre le cancer aux États-Unis. Et Covid oblige, hein, cette édition pour une fois s'est tenue à domicile, donc avec des streamers chacun dans leur coin depuis chez eux, qui ont tout de même récolté la jolie somme de 2,75 millions de dollars, donc en l'espace d'une semaine. Jolie somme qui n'est pourtant pas encore le record établi, puisque c'est en 2019, l'année dernière, que ce record avait été atteint. C'était 3,16 millions à comparé aux 10 000 dollars de la première édition qui se tenait en 2010. Donc voilà, on mesure un petit peu quand même le chemin parcouru. C'était une très belle édition dont Eva, eh bien, vous a parlé un petit peu sur Gameblog. Et pour ceux qui l'auraient loupé ou ceux qui auraient manqué certains bouts de cette édition 2021, vous avez le lien justement dans la news sur Gameblog. Moi, je vous invite à aller regarder deux speedruns que j'ai trouvé absolument fantastiques. On a un run 16 étoiles de Super Mario 64 à l'aveugle, donc où le runner joue avec un bandeau sur les yeux et se repère uniquement au son pour faire sa route et aller chercher 16 étoiles, c'est assez malaise. Et encore plus fort, on a un run de Céleste qui se joue au tapis de danse à la DDR, donc Céleste qui est sans doute un des platformers les plus exigeants de ces dernières années, là, joué au pied et qui est magistralement bien joué, donc c'est vraiment deux runs absolument fantastiques que je vous invite à rattraper si jamais vous ne les avez pas vus en direct. Voilà, donc c'était en tout cas la bonne nouvelle pour commencer l'année, sachant que, comme tous les étés, se tiendra le Summer Games Done Quick d'ici quelques mois.
Si tout va bien.
Si tout va bien.
Merci beaucoup. Passons au fail tout de suite avec Plume.
Comme tu alors, vois,
on parle d'un certain jeu qui...
on va pas...
moult fois.
Oh là là, on va pas... Je pense qu'on en a encore pour un petit moment, hein, avec Cyberpunk 2077, qui, pour ses versions console... console current gen, évidemment, continue de faire beaucoup parler et continue d'inquiéter surtout CD Projekt, la société dans son ensemble, CD Projekt évidemment, puisque eh bien, après les tentatives de class action aux États-Unis, maintenant c'est carrément en Pologne, au pays même de CD Projekt, que la menace semble poindre. On va dire que ça s'appelle comment, un organisme de régulation polonais, un truc officiel, hein, commence à s'intéresser un petit peu à tous les problèmes qu'a rencontré le jeu. Alors, je vais donner le nom, mais mon polonais est un peu rouillé.
Ah, hein. C'est ce que j'attendais.
C'est la URZAD Ochroni Konkurencji i Concurrenci e Consumeto, donc de
KGB, quoi.
Qui est une agence chargée de la protection des consommateurs en Pologne, qui commence à vouloir demander des comptes à CD Projekt pour essayer de savoir ce qui s'est passé avec cette version CurrentGen, qui est donc, on vous l'avait déjà dit, complètement bâclée, à la limite injouable. En tout cas, au moment où elle est sortie, elle était injouable au bout de quelques heures. Et bah voilà, cet organisme a besoin de savoir ce qui s'est passé et a agité une petite menace en plus, une menace qui n'est pas anodine hein, dans ce genre de choses, parce qu'il faut savoir que le gouvernement polonais avait quand même accordé un crédit de plusieurs millions d'euros à l'époque pour le développement du jeu, et que bah, là, si jamais, on va dire, les conclusions sont défavorables à CD Projekt, il se pourrait... Eh bien que la Pologne réclame 10% des revenus de l'année 2020, sachant que l'année 2020 a été une année pour le moins réussie pour CD Projekt. On parle pas seulement des 13 millions de Cyberpunk 2077 qui ont été vendus en quelques jours, mais aussi bien de tous les The Witcher 3 qui ont été vendus après la diffusion et le visionnage de la série The Witcher sur Netflix, de tous les autres jeux aussi. Et
rappelez-vous le jeu a battu les records de fréquentation sur Steam à la sortie de la série.
Exactement. Et avec, rien qu'avec tout ça, 10%, ça peut représenter une vraie belle somme. Je pense qu'après, on va dire que les autorités polonaises, tout le monde peut partir en vacances sans aucun problème.
Et donc, en guise d'amende, etc.
Ah oui, absolument, oui. Ah ouais. Si CD Projekt refuse de collaborer, ce qui est largement possible, hein. Ils peuvent dire non, mais on est dans notre droit, tout va bien. Ils pourraient se voir infliger ça. Donc ça laisse un petit peu de temps avant de savoir. On verra ce que ça donne. Mais encore une fois, Cyberpunk, on risque d'en entendre parler encore pendant quelques mois, jusqu'au jour où, enfin, tous les problèmes sont réglés. Et ça, c'est peut-être pas pour tout de suite.
Petite précision. Ouais. Avant qu'on passe à la suite, l'organisme dont Plume a merveilleusement bien prononcé le nom, donc je ne vais pas m'amuser à le répéter, va surtout s'attacher en fait à vérifier que des patchs correctifs vont voir le jour pour rendre justement les versions CurrentGen entre guillemets jouables, en tout cas moins buggées. C'est surtout cet aspect-là en fait qui va être surveillé de près par les autorités polonaises.
Exact.
Et le jour où CD Projekt part de la Pologne parce qu'ils en auront marre, ça va peut-être leur faire drôle aussi. Donc, à mon avis, ils vont trouver un compromis et ils vont s'y tenir parce que ça me paraît quand même assez gros, cette histoire.
Bah, faire à suivre, hein, comme dirait l'autre.
Exactement.
Tout à fait. Eh bien, écoute, merci Plume donc, pour ce fait, encore une fois, concernant Cyberpunk 2077. Et effectivement, d'autres choses à venir sur cette affaire qui n'en finit pas. Là, c'est en Pologne, ça sera sûrement aux États-Unis après, peut-être en France, en Europe, etc. Donc, on verra comment tout ceci va se goupiller. Tout de suite, messieurs, si vous le voulez bien, on va parler écoutez, de l'actu de la semaine, de tout ce qui s'est passé.
Tout à fait. Exactement.
Et on commence tout de suite avec toi, Johnny One, parce que...
je crois que j'ai parlé pendant le jingle. Non,
pas grave.
Désolé. C'est moi qui vais prendre la main de quoi ? Attends, je regarde le plan. Ah voilà, ça y est, je sais. Monster Hunter Rise qui vient de sortir. Non, il est pas du tout sorti cette semaine. On a eu droit à la démo cette semaine. Voilà. Alors nous, on a de la chance, petits journalistes que nous sommes, nous avons eu un accès anticipé à la dite démo. On a pu y jouer toute la semaine et vendredi, c'était Byzance, c'était la fête. Toute la populace a eu le droit de jouer à cette même démo. Donc la plèbe a pu goûter aux joies de Monster Hunter Rise.
Voilà. Cette délicieuse pointe de mépris dans ton jeu, j'adore.
Non, je vous aime tous et je me mets là. C'est très très bas. Donc on a eu la chance donc de pouvoir jouer tous ensemble à cette super démo de Monster Hunter Rise sur Nintendo Switch. Alors qu'est-ce que c'est que ce Monster Hunter Rise ? C'est la nouvelle itération de Monster Hunter qui va sortir en mars, le 26 mars. Et le jeu, il a la pression sur les épaules parce qu'il passe quand même, je vous le rappelle, après un jeu qui s'appelle Monster Hunter World, qui était sorti donc en 2018, qui avait revu tous les codes de la série, qui l'avait rendu 100 fois plus ergonomique, plus beau, plus agréable à jouer, plus fluide. Bref, tout était mieux. C'était même tellement bien que le jeu était même devenu le jeu le plus vendu de chez Capcom. Voilà. Donc là, ce Monster Hunter Rise, il débarque avec la pression parce qu'il passe après Monster Hunter World. Et il débarque avec même encore plus de pression puisqu'il va débarquer pas sur PS4, pas sur PS5, non, sur Switch, en exclusivité. Bon, qu'est-ce qu'on peut en attendre donc ? Bah, je vais vous rassurer tout de suite. On peut en attendre beaucoup de choses, vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Déjà, dès que le jeu est lancé, la démo, le premier truc qui flash... Oula, une petite souris. Le premier truc qui flash, c'est les graphismes. Franchement, j'ai eu l'impression d'être face à un des plus beaux jeux de la Nintendo Switch. Déjà, les décors, ils sont ouverts, comme dans World. On n'a plus des zones indépendantes, vous savez, où il y avait un temps de chargement quand on passait de la zone 11 à la zone 12. Non, là, tout est fluide, tout se fait en temps direct. Et vraiment, les niveaux, les maps sont grandes, gigantesques, comme dans Monster Hunter World. Et tout se fait en fluidité. Quand on passe de la zone 11 à la zone 12, c'est en escaladant, c'est pas avec un temps de chargement. Donc ça, déjà, c'est vraiment pas mal. Et les décors, bah, ils sont vraiment beaux, en fait. On voit que les forêts sont belles, que les montagnes sont belles, que tout est assez beau, qu'on a une assez grande profondeur de champ, que la végétation, bah, elle pullule à droite à gauche. On a vraiment beaucoup de trucs. Et visuellement, bah, c'est beau. Et quand on est sur Switch, de voir un truc visuellement beau comme ça à ce point-là, bah, je suis désolé, mais c'est surprenant. Donc déjà, dans un premier temps, voilà. Donc le premier gros point et la première grosse info qu'on peut tirer de cette démo, c'est que le jeu, il va être beau à pleurer pour de la Switch. Alors oui, c'est sûr, ce sera moins beau que Monster Hunter World qui tourne sur une PS4 Pro ou sur un PC de la mort. Mais franchement, pour de la Switch, on est très bien. Et ça va être suffisant pour jouer et pour que ce soit agréable, en fait. Voilà. Donc vraiment, en termes de plaisir visuel, on va être servi, je pense. Ouais. D'autant plus que le design du jeu va être assez original. On va avoir un design un peu japonisant, avec, vous savez, des temples japonais, des Tsunoya, ce genre de choses, qu'on ne voit pas trop d'habitude dans Monster Hunter. Ben là, j'ai l'impression que le design il va en être pas mal parsemé à droite à gauche. Bon, on a vu que la démo, donc je ne peux pas vraiment confirmer ça. Mais même au niveau des musiques, c'était très japonisant. Tu voulais dire un truc, Plume ?
Bah, je voulais justement revenir sur le design parce que tu parles de la technique, mais c'est surtout au niveau du design qui te rend vraiment et qu'il est vraiment super attirant pour peut-être d'autres, une autre frange de joueurs que celle habituelle de Monster Hunter, qui est habituée à de la fantasy, on va dire un peu plus classique, même si les bestioles en elles-mêmes ne sont pas classiques.
Non, pas du tout. Mais c'est vrai que l'esprit Monster Hunter, d'habitude, c'est plus, comme tu dis, de l'heroic fantasy assez basique. Genre, on pourrait presque transposer ça dans le Seigneur des Anneaux, quoi. Mais là, on va être vraiment sur du Japon féodal, donc du Ghost of Tsushima, du Nioh, ce genre de truc. Voilà. Et du coup, bah, en termes de design, ça va être joli, quoi. Les décors, on voit, comme je vous le dis, c'est des maisons japonaises. Les montagnes, on voit, vous savez, ces espèces de belles montagnes dessinées par Okusai dans le décor au fond. Enfin, voilà. Non, vraiment, visuellement, ça va tout déchirer. Ça va être moins beau que sur Play 4, mais c'est pas grave, limite, on s'en fiche. D'accord? Et je vais vous dire pourquoi on s'en fiche. Parce qu'il se pourrait bien qu'en termes de gameplay, on soit mieux que World. Dis donc. Ah, et oui, parce que... alors, pourquoi ? Pour plusieurs raisons. Déjà, le premier truc, donc, quand tu lances le jeu, tu te rends compte tout de suite que les commandes sont plus fluides, que tu peux ramasser une plante en courant, que tu peux monter sur une bestiole à la volée, que tu peux escalader les murs. Bref, toutes ces améliorations-là qui avaient été faites dans World, les améliorations d'ergonomie qui rendaient le jeu... qui faisait passer un jeu des années 90, un des premiers jeux en 3D, à un vrai jeu de 2020. Voilà. On faisait vraiment améliorer la jouabilité. Mais toutes ces améliorations-là de gameplay et d'ergonomie, elles sont toutes incluses dans Rise. Bon, alors toutes, j'ai joué qu'à la démo, hein, j'ai pas eu le temps de tout tester. Mais la plupart. Donc vraiment, on a un jeu qui, en termes d'ergonomie, de fluidité, et de gameplay et de confort de jeu, va être... au minimum au niveau de World. Et pourquoi je dis au minimum ? Je pense qu'il va même être meilleur que World en termes de jouabilité. Oh. Parce que déjà, oui, je le dis, j'annonce. Enfin, c'est de la prévision, hein. On verra, hein. On prend les paris. Hein. Voilà. Déjà, c'est pas de l'info, hein. C'est
du ressenti.
Voilà, du ressenti. Donc déjà, dans World, quand Iceborne était sorti, la formule World avait déjà été améliorée un petit peu avec le gros DLC. On avait notamment eu un grappin, ce genre de choses dans Iceborne. Donc déjà, entre World et Monster Hunter World Iceborne, la formule s'était déjà encore un peu plus améliorée en termes d'ergonomie. Ben, ça va être encore plus le cas avec Rise. C'est-à-dire que les améliorations qui ont été faites dans World, qui ont été continuées dans Iceborne, et ben, elles continuent encore dans Rise. C'est-à-dire que Rise, c'est quoi ? C'est un jeu qui va avoir probablement le gameplay de World avec des ajouts en plus. Par exemple, je vous parlais du grappin tout à l'heure. le grappin, il est toujours dans Rise. Et ben, par rapport à Iceborne, il est encore amélioré. Il est encore plus fluide. Il suffit d'appuyer sur une gâchette et sur un des boutons et on va pouvoir aller s'accrocher avec le grappin sur les monstres à droite à gauche. Alors déjà, dans Iceborne, c'était pas mal. Ça rajoutait du dynamisme. Ça en rajoute encore plus dans Rise. Et notamment, vous avez une arme, qui, par exemple, mon arme. Moi, je prends toujours les deux petits couteaux, qui est une arme où on a de grands problèmes si on a un monstre qui est grand pour aller le taper en haut. Non, on va plutôt rester tapé dans ses pattes. Ben là, avec mon grappin, avec ma double petite épée, je vais pouvoir aller taper dans la tête des grands monstres. Donc, ça va pouvoir permettre de localiser les dégâts un peu mieux. Enfin, voilà. Donc, vraiment, en termes de gameplay, on a été déjà sur quelque chose de très, très, très ergonomique avec World et Iceborne. Ben, j'ai vraiment l'impression, ce sera à confirmer, que cette formule s'enrichit encore dans Rise. Que demande le peuple? C'est fantastique, c'est formidable. Voilà. Donc, pour l'instant, ce qu'on en a vu, c'est un jeu qui va être très beau, que ce soit en termes de graphisme ou en termes de design, et qui, en plus, en termes de jouabilité, risque d'aller encore plus loin que World et Iceborne. Après, il faudra voir en termes de contenu. Est-ce que le jeu va être vaste, méga vaste, ou est-ce que ce sera un petit Monster Hunter? Combien il y aura de monstres? Est-ce qu'il y en aura 50? Est-ce qu'il y en aura 80? Est-ce qu'il y en aura 100? Tout ça, c'est des trucs qu'on pourra savoir que quand on aura fait le test et qu'on aura la version finale entre les mains. Ça n'arrive pas tout de suite. Oui.
Et c'est garanti que ce sera un monde ouvert sans chargement, comme pour World of Warcraft.
World, c'est pas un monde ouvert sans chargement, c'est des mondes ouverts sans chargement. Dans World, tu as 5 grandes maps qui sont, d'accord, oui, ouvertes entre elles et sans chargement. Ouais. Mais tu as le monde du feu, tu as le monde de la glace, tu as le monde de la
chaîne. Ce que je veux dire, c'est qu'on n'a plus les zones de chargement de ouf comme on avait avec les versions PSP terminé. Et autres.
Ça, c'est terminé. Ça, c'est fini. Ça, c'est fini. Tu l'avais encore dans XX sur Switch, qui était le dernier épisode Switch, qui était un épisode à l'ancienne, très clairement, qui était sorti la même année que World, mais qui faisait clairement pitié comparé à World. Mm. Voilà. Ça avait beau être c'était un excellent jeu, XX, hein, mais quand on voit tous les ajouts ergonomiques qui ont été faits dans la suite de la saga, non, il était vieillot. Bah là, ça y est. Là, sur Nintendo, on va pouvoir avoir un Monster Hunter moderne et très bon. Mm. Voilà.
Et alors, toi qui suis, Johnny, la licence depuis un petit moment, là, on sent qu'il y a effectivement un changement de design. Il est esthétiquement plus japonais, mais visiblement beaucoup moins japonais dans ses mécaniques. Est-ce que tu as l'impression que Capcom tente un truc ou est-ce que c'est l'avenir, entre guillemets, de la série qui est en train de se dessiner comme ça avec une nouvelle forme?
Je pense qu'il y a un peu des deux. Peut-être que là, ils tentent de mettre un design. Voilà, tiens, si nous japonisions toute la chose, puis si ça marche, ils vont probablement continuer. Si ça ne fonctionne pas, qu'est-ce qu'ils nous feront, un Monster Hunter futur?
Peut-être qu'ils se disent aussi que la Switch étant une console qui carbure, qui turbo-carbure au Japon, et que forcément le public sera peut-être, public japonais sera peut-être très attiré par ce genre de proposition, comme il l'a été par Animal Crossing. Peut-être que c'est juste une manière de bien cibler la Switch pour ce qu'elle est, à savoir une console qui vraiment assure énormément sur l'archipel.
Et pas que le public japonais, parce que le succès de World a été tel que, enfin, Johnny le disait, c'est devenu leur jeu le plus vendu. Même la série est désormais la licence la plus vendue.
C'est ça qui est fou, hein, parce que tu te dis que même un Resident Evil ou un Resident Evil 4 ou un Street Fighter 2 ou un Mega Man X qui sont sortis sur combien de machines tous ces jeux-là? World, avec 3 machines, Xbox One, PS4 et PC, il a tout défoncé.
Ouais, c'est vrai. Est-ce que toi, Johnny, t'as pas peur que les joueurs PS4, PS5, PC...
ils vont être jaloux. Hein.
C'est exactement ça que je pensais.
Ils vont être jaloux. Si, ils vont être jaloux parce que Rise, il va être mieux que World. Et puis les joueurs PS4, du coup, ça fait comme Iceborne, c'est 2019, si je dis pas de bêtises. Donc ça commence à faire un petit peu de temps, un an et demi quand même, qu'on a joué pour la dernière fois un vrai gros truc de Monster Hunter. Non, les joueurs console, ils vont faire la tête, clairement. Surtout qu'en plus, Rise, il a annoncé comme une exclusivité. Donc il risque de pas sortir. Par contre, moi, ce que je me dis, c'est qu'on va peut-être avoir droit à Monster Hunter Next Gen, pas encore annoncé.
Et peut-être même Stories 2 aussi qui arrive entre temps.
Ouais, ça c'est autre chose, ça, c'est du spin-off ça. Mais oui, on va peut-être avoir, je sais pas, World 2 sur PS5 et Xbox Series. Ce serait fantastique qu'on puisse avoir ça. Donc là, les joueurs Switch, oui, clairement, ils vont être. Ça va être les fans de Monster Hunter, les mieux lotis en 2021. Voilà.
Et du coup, on rappellera aussi à ceux qui auraient envie de tester la démo qu'il faut se dépêcher parce que je crois qu'elle n'est téléchargeable que pendant un temps limité et ça se termine à la fin du mois, me semble-t-il. Donc voilà, tardez pas trop si ça vous plaît.
La démo est minuscule. Hein. En vrai, il y a deux tutoriels et il y a deux monstres. Donc le premier monstre qu'on voit, c'est un espèce de raptor à poils, avec des poils courts.
Accompagné par, on a besoin de la précision.
Ouais, accompagné par deux mini raptors à côté qui font son escorte. Voilà, donc ça c'était le monstre de base, la version facile. Et le monstre un peu plus compliqué, c'était un espèce de, alors un renard à deux queues, très japonisant, avec des couleurs un peu roses et tout. Moi, il m'a fait penser à un monstre de Tukiden. Tukiden, qui est un Monster Hunter-like, lui aussi très japonisant. Donc, un espèce de renard à deux queues qui nous crachait des bulles de savon à la tronche. Voilà. Assez dangereux. Très rapide. Et si on était très téméraire dans la démo, il y avait d'autres monstres qui traînaient. C'était pas la mission d'aller les tuer, mais ils étaient là. Donc, on pouvait aller les chasser. Un Rathalos ou un Ratian, je sais plus ce que c'était. Une grosse wyvern géante volante. Voilà. Un truc qui rigole pas.
Bah, pas beaucoup voilà, de contenu, voilà. Mais ça a quand même suffi à te mettre
ouais. En jeu. Ah bah oui, oui, non, on a passé pas mal de temps dessus, et puis non, c'est à voir. Et puis comme je vous dis, rien que pour voir déjà les graphismes, voir ce jeu tourner sur Switch, ça peut valoir le coup de télécharger la démo, parce qu'on a vraiment un très très beau jeu sur Switch là. Et le deuxième truc que je voulais dire, je sais plus pourquoi. Je sais plus. Bon, parce que c'est cool, voilà.
Parce que c'est trop bien. Ah. Peut-être que Bulbe.
Donc voilà, bientôt le test, le 26 mars. Bientôt, ça va.
Ça va prendre
plus de deux mois. Non, la date de sortie, ça s'est annoncé. On n'a pas de NDA Trace, t'inquiète encore.
Non, mais détends-toi, je m'en fous. Le mec, j'en ai marre du NDA et j'en ai rien à foutre.
Je sais, j'ai vu ton message sur les.
Je ne signerai plus rien, c'est fini.
On espère évidemment qu'on n'est pas écouté par nos amis attachés de presse par le monde.
Il n'y a que Trump qui a été.
Et ouais. Bon, ben voilà, moi, monsieur, j'en ai terminé.
Parfait.
Je vais vous abandonner parce qu'il est un peu l'heure.
Exactement. Merci beaucoup, Johnny One, parce qu'effectivement, tu es en direct d'un endroit dont on ne dira pas le nom.
Ouais, oui. Tu vas aller regarder, j'ai fait ma petite déco. Vous le reconnaissez, là, celui-là ou pas, là ? Vous le voyez ?
Ouais, c'est un peu anamorphosé, non ?
Ouais, tenez, regardez, je vais m'habiller même avec les couleurs, tiens, pour partir. Voilà.
Tac. Comment ça ?
Ah, ouais, okay. Ah, bah oui. On l'avait découvert hier, la rédaction.
Oui, le noir et l'orange. Bon, je vous fais des bisous, les mecs.
Ouais, bisous, Johnny.
Ciao, Johnny.
À plus.
Ciao, ciao.
Ciao.
Tchuss.
Bon, bah voilà, on n'est plus que trois alors.
On n'est plus que trois avec Poufy et la technique qui est en train de s'endormir, je crois, mais c'est pas vrai en fait. Bah, du coup, nous, on va continuer.
Moi, je suis toujours là, je ne sais pas comment raccrocher. Allez, bisous.
Ciao. Cheers, hein, cheers.
Et là, il raccroche pas, il met le téléphone dans sa poche, et du coup, il a tout le reste de podcast.
Allez, Johnny, c'est toi qui raccroche.
Comme c'est moi.
Appuie sur le petit bouton rouge.
Appuyez sur le bouton, monsieur.
Si tu le vois,
ça me touche.
Ah, mon cœur.
Allez, Poufy, vire-moi.
Poufy, vire-moi.
Allez, bisous.
Téléphone, t'appuies sur le téléphone rouge.
Ah, c'est bon, je vois. Allez, bisous, bisous.
Ah, quand même. Ou pas.
Johnny découvre la technique.
Si, c'est bon, là.
Bon. Ensuite,
c'est fait. Johnny One a dû nous quitter pour des raisons extra sportives. Nous, on va continuer effectivement cette semaine de jeu avec toi, Plume, qui a joué à Hitman 3 et t'as kiffé ta race apparemment.
Ah oui. Alors Hitman 3 qui va sortir le 20 janvier, donc c'est dans pas si longtemps que ça. Et j'imagine que le test ne devrait pas tarder non plus. En fait, j'étais très surpris par la nouvelle proposition. Alors, on a eu droit d'essayer deux niveaux, les deux premiers niveaux du jeu.
Quelle classe ?
Je vous en dis pas trop, je vous en dis même pas du tout sur le scénario, qui de toute façon n'est pas la grande force du jeu, même si on sent qu'il y a un développement un peu plus intéressant que dans les deux premiers épisodes. Et alors, en gros, ça fait du Hitman, vraiment comme ça l'a toujours fait, mais avec des spécificités, des intentions qu'on avait déjà senties auparavant, mais qui là sont plus affirmées. La première, déjà, c'est de vouloir toujours faire plus grand, plus époustouflant, plus vaste, plus peuplé que jamais. Et ça, c'est le premier niveau, qui est le niveau de Dubaï, donc sur lequel on atterrit en parachute. On est sur une des plus hautes tours du monde, si ce n'est la plus haute tour du monde, du moins du monde de Hitman, qui se trouve à Dubaï. Et donc, on y va en parachute, on atterrit sur le sommet de la tour en combinaison avec le casque. On se balade jusqu'à une fenêtre. Il y a une petite musique derrière qui fait un peu James Bond. C'est pas la première fois hein, qu'il y a des allusions à James Bond dans Hitman. Ceux qui ont retourné le niveau de Sapienza dans Hitman 1 savent de quoi je parle. Bah là, c'est vraiment une ambiance James Bond, c'est-à-dire que en plus c'est très cinématographique. Vous êtes suivi pour rentrer dans le bâtiment. Vous êtes toujours en combinaison. Vous passez derrière un rideau et là, une fois que la caméra qui vous suivait passe derrière le rideau, bah vous n'êtes plus en combinaison, vous êtes en costard et vous rentrez dans une cérémonie qui est en train de se tenir un peu plus loin. C'est très bien amené et puis après, bah voilà, vous allez vous retrouver avec les mêmes choses que d'habitude. Vous avez deux cibles, comment les buter et bah, il faut essayer de trouver les bonnes solutions. Il y a toujours des opportunités qui peuvent s'ouvrir ici et là, suivant que vous entendez une conversation ou que votre contact, l'agent de contact vous dit « Tiens, va voir ça et dis-moi si j'y suis », enfin ce genre de choses. Et donc, il faut encore une fois explorer, tâtonner, voir ce qui va se passer si vous provoquez une chose, donc sauvegarder souvent comme d'habitude, essayer de se noyer dans la foule, voir si dans les routines des deux personnes qu'il faut assassiner, s'il n'y a pas un moment de faiblesse, un moment où ils ne sont pas trop surveillés, un moment où ils ne sont pas en dessous d'un lustre par exemple. Alors, c'est pas vraiment du spoil, hein, mais il y a toujours des possibilités de créer des accidents. Dans Hitman, s'ils sont en dessous d'un lustre et que vous trouvez la manivelle, hop, le lustre se tombe dessus. Oh zut, il est mort. Et voilà. Et là, d'ailleurs, l'IA, elle fait toujours rire parce que personne ne fait attention à quoi que ce soit. Ils regardent tous comme ça, genre, oh là là, c'est triste. Bref. C'est l'IA, malheureusement, dans Hitman, n'a jamais été flamboyante. Mais encore une fois, c'est quand on la fait sortir un petit peu dévier de sa trajectoire. Il suffisait de voir déjà dans tout le premier, quand vous tiriez un coup en l'air et que tout le monde se mettait à partir d'un seul coup, toute la foule de Paris se mettait à partir d'un seul coup, c'était un peu étrange. Il y avait d'autres choses comme ça, comme les moments où ils entraient, où les gardes vous suivaient, vous étiez derrière la porte et tous à la queue leu leu, ils se faisaient buter les uns après les autres. Bref, je pense que l'IA va pas encore être géniale, mais par contre, en termes de propositions et de possibilités, d'autant plus à Dubaï qui est très vertical. C'est vraiment intéressant et le jeu est vraiment super beau. Dans ce niveau-là, il est vraiment super beau, très impressionnant. Le moteur glacier a été refait un petit peu. Ils ont eu le temps de le peaufiner encore pour qu'il y ait des reflets encore plus impressionnants, des effets vraiment magnifiques. Et déjà avec Dubaï, on est content. Mais alors le deuxième niveau, dont je ne peux pas trop parler parce que ça serait des vilains spoils. On est beaucoup de confrères à avoir vu dans le niveau de Dartmoor, donc le deuxième niveau, des références à un film génial qui s'appelle À couteau tiré de voilà, le téléphone, attendez, on va décrocher. Allô? Oui. Alors, c'était qui?
Je sais pas, j'ai pas décroché.
Ah d'accord. Donc le film de Rian Johnson, donc qui est sorti il y a 2 ans maintenant et qui est un excellent Agatha Christie-like avec Daniel Craig entre autres, qui est un film absolument savoureux. Et donc on se retrouve dans une ambiance un peu comme celle-là puisque on va devoir aller encore une fois le contrat ça va être de tuer quelqu'un qui est dans une famille de l'aristocratie britannique qui est dans un manoir bien isolé, un vieux manoir, un grand manoir magnifique. Avec des décorations, des tableaux, des animaux empaillés, des bibliothèques partout, qui vraiment fait penser à ces vieilles bâtisses britanniques qu'on a dans les romans d'Agatha Christie. Et donc dans cette famille, quelqu'un est mort, quelqu'un s'est suicidé manifestement, mais c'est pas sûr. Et donc vous avez la possibilité dans un des arcs narratifs, et ben d'enquêter davantage sur ce suicide. Et ça ouvre. Alors je l'ai fait en entier. Ça m'a pris une heure et demie, je crois. Donc ce qui est pas un temps que je passe d'habitude sur les niveaux de Hitman. Mais rien que ça, ça vous donne une indication de ce que veut faire IO Interactive avec celui-ci, c'est-à-dire essayer de faire quelque chose d'assez unique pour chacun des niveaux. Et là, il y a une narration qui est un peu plus forte. Qui peut être un peu plus forte, vous avez évidemment d'autres possibilités. Hein. Vous pouvez encore, comme d'habitude, vous pouvez y aller avec votre flingue, buter la personne et vous casser, même s'il y a un objectif supplémentaire qui n'est pas aussi facile que ça à avoir. Mais il y a plein de surprises dans ce niveau, des personnes à interroger, comme je vous dis, une narration et donc des petits scénarios qui viennent se greffer en plus. Encore une fois, des tas de possibilités. Les seuls trucs qui sont un peu décevants, et là je prends pour les deux niveaux, c'est que on nous vend un nouvel objet qui est un téléphone portable qui va servir de caméra et qui va aussi servir à déverrouiller certains dispositifs électroniques. Bon, là, à part ouvrir une fenêtre, j'ai pas vu que ça faisait quelque chose de fondamentalement indispensable. Voilà, c'est un objet supplémentaire, mais on verra peut-être dans les niveaux d'après, mais là, pour les deux premiers, ça fait pas grand-chose. Il faudra voir aussi sur les niveaux précédents, ceux de Hitman 1 et Hitman 2, qui seront évidemment, encore une fois, compatibles et réaménagés visuellement avec rétrocompatibilité avec le 3. Donc, toute la trilogie sera améliorée, entre guillemets. Donc, il y aura cet objet-là. Et puis, il y a l'autre fonctionnalité supplémentaire qui a été ajoutée, c'est les raccourcis permanents, puisque un peu à la façon d'un... j'ai envie de dire dans Dark Souls, parce que je crois que c'est dans Dark Souls aussi qu'ils aiment bien faire ça. Vous savez, vous avancez, et puis là, tout d'un coup, vous voyez une porte, vous l'ouvrez et vous voyez que c'est la porte qui vous ramène au tout début du niveau, et donc vous avez créé un raccourci. C'est un peu ça en fait, sauf que là, c'est pour vos runs ultérieurs. Une fois que vous avez déverrouillé par exemple une échelle dans le niveau de Dubaï, eh bien, vous allez pouvoir gagner du temps, tout simplement. Il y a cette échelle-là qui sera accessible immédiatement pour vos runs ultérieurs. Et donc, du coup, si vous avez envie de faire du speedrun sur Hitman, et d'ailleurs du speedrun et essayer de compléter tout, ce qui va vous prendre un temps complètement dingue, parce que réussir à accomplir tous les objectifs qui sont proposés, c'est complètement c'est fou quoi de vouloir se lancer dans une telle entreprise, et bon courage à ceux qui vont vouloir le faire. Donc voilà, il y a ces nouvelles fonctionnalités qui moi pour l'instant n'ont pas spécialement fait plus de, on va dire, n'ont pas donné plus de plaisir que ça ou m'ont pas semblé bouleverser la formule, mais rien qu'avec Dartmoor, avec le deuxième niveau, je pense déjà que Hitman a atteint un de ses meilleurs niveaux jamais créés. Pour l'instant, mon préféré, ça reste Sapienza, en tout cas sur cette trilogie. Après, si je devais faire sur la totalité, ça c'est une autre histoire. Il y en a eu d'autres, hein, mais déjà là, rien que ce niveau-là est bon. Alors, quand on sait maintenant, puisque IO Interactive les a dévoilés avant qu'on enregistre ce podcast, qui est les quatre autres, ça va être Berlin, la Chine, mais aussi l'Argentine et la Roumanie. La Roumanie qui a qui a un lieu important dans la mythologie Hitman, ça laisse entrevoir des choses sympathiques, hein, les vignes argentines, ça peut être un endroit sympathique. C'est Berlin avec une espèce d'ambiance un peu, on devine en tout cas une ambiance un petit peu film d'espionnage années 80, guerre froide, etc., avec une ambiance de rave aussi évidemment, puisqu'on nous promet d'aller en boîte. Il y a plein de choses comme ça qui... Je me demande d'ailleurs si le chinois nous fera pas un peu de John Woo aussi, hein, s'il se transformera pas en bain de sang obligatoire. Bref, il y a plein de trucs comme ça, plein de pistes qui sont à étudier. Et quoi qu'il en soit, je pense que quand Hitman 3 va arriver, on va être très content et que ça sera sûrement l'aboutissement vraiment de toute une formule, une envie de la part de IO Interactive qui pourra mettre 47 à la retraite pendant quelques temps, le temps de foncer sur James Bond, parce qu'il y a le Project 007 là qui est en cours, et que ils ont là aussi, s'ils prennent appui sur Hitman, il y a des choses à faire qui peuvent être vraiment très très intéressantes. Donc voilà, résultat, le verdict ce sera le 20 janvier, mais déjà là, ça fait très très envie.
Très très quoi, pardon ?
Très très envie.
D'accord. Parfait, parfait. Écoute, t'as fait le tour. Hein. De toute façon,
oui.
On vous en dira plus très prochainement, puisque le jeu sort très, 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 très bientôt. Donc, il y aura le test sur Gameblog et tout un tas de choses intensives.
Ouais.
Avec Plume ou avec Rami, je ne sais pas encore qui des deux fera tiep.
De quoi ? Pour le test ?
Ouais.
Pourquoi Rami ? Rami, il n'a rien à voir avec Hitman ?
Ouais, mais il adore Hitman, en fait.
C'est dommage pour lui.
C'est vrai. Voilà, maintenant tu le sais.
Désolé Rami.
Allez, salut Rami, hein. À bientôt.
À bientôt.
Bon courage. Ouais. Ah mais non, mais par contre, l'ami VR5, c'est sûr, nous fera quelque chose sur la réalité virtuelle, parce qu'il y a quelque chose sur PlayStation VR qui s'annonce absolument fabuleux. Mais genre vraiment fabuleux. Ça peut être un game changer de pouvoir jouer à la trilogie Hitman avec le casque sur la tête. Hein.
Tout à fait. Tout à fait. Encore faut-il qu'on nous donne une deuxième version, parce que pour l'instant, c'est pas encore
gagné. T'inquiète, on en aura.
On fera tout pour. Merci beaucoup. Bah, écoute, maintenant, on va passer à toi, Thomas. Parce que tu
as... Mais attendez, il faut que je raccroche aussi ou pas ?
Paris Boy Forever. Non, toi, tu restes là.
Ah bon, je reste. Ah, d'accord, ok.
Ah, allez. C'est dommage, on l'avait assez vu.
Tu crois ? Bon, bah écoute, comme vous voulez, je sais pas, vous décidez.
Non, mais je plaisante, évidemment.
Ah, c'est toi qui choisis. Ouais, donc Thomas, je disais, tu vas nous parler de Super Meat Boy pour toujours.
Eh oui.
Parce que t'as kiffé ta race et du coup, t'es devenu végétarien.
Ouais, alors moyennement pour le côté qui fait ma race, et moyennement pour le côté végétarien aussi. Mais ouais, ça a été. Ben, je parlais tout à l'heure de lancer l'année 2021 pour le coup sur une bonne nouvelle avec le win. Là, ça a été, on va dire, on peut dire même ma première déception de l'année. Et bah, le premier jeu en fait auquel j'ai joué en cette belle année 2021, c'est donc Super Meat Boy Forever. On attendait depuis, oula, près d'une décennie, hein, le jeu a pris vraiment tout son temps pour sortir. Donc on rappelle, hein, suite de Super Meat Boy, qui était lui-même une espèce de remodelage de Meat Boy premier du nom, mais qui cette fois a été toujours développé par la Team Meat, mais la Team Meat qui a été un petit peu divisée par deux, en fait, puisque Edmund McMillan s'est barré il y a quelques années pour travailler sur plein d'autres projets, et puis il a sorti d'ailleurs pas mal de jeux depuis, et entre-temps, bah, il restait Tony Refenes, la deuxième moitié de ce duo, qui a mis bah, tout ce qu'il avait, et surtout son temps, dans Super Meat Boy Forever, qu'on avait entreaperçu à l'E3 2018, et qui depuis eh bien, ne s'était pas laissé à nouveau approcher. Le jeu est enfin sorti un petit peu à la surprise générale, là en cette fin d'année, il est arrivé comme un cheveu sur la soupe, mais il donnait un peu de matière justement aux amateurs de platformers un petit peu velus, parce qu'on était évidemment en droit d'attendre de ce nouvel épisode, qui change pas mal de choses. Alors, ça ne vous aura pas échappé si vous avez suivi un tout petit peu l'actualité du jeu. On délaisse la formule classique qui avait été proposée dans Super Meat Boy pour cette fois-ci avoir un espèce d'endless runner. Alors, pas endless puisque les niveaux sont finis, mais en tout cas, votre personnage, cette fois-ci, court tout seul, sans qu'on lui demande quoi que ce soit. La course est systématiquement activée et il va donc falloir parcourir eh bien, potentiellement des milliers de niveaux, puisque c'est l'un des points sur lesquels Refenes avait longuement insisté et qui justifiait un développement tentaculaire et quasiment infini, c'est qu'il y a plusieurs milliers de niveaux dans Super Meat Boy Forever, 7200 à en croire l'intéressé. Ça fait beaucoup, ça fait peut-être même un peu trop, en fait, parce que tout ça est un petit peu aléatoire. Quand vous lancez une première sauvegarde, eh bien, vous avez une espèce de roulette qui va déterminer les environnements, vous allez, enfin, pas les environnements, parce que les décors restent les mêmes, mais en tout cas, l'architecture, le level design va changer à chaque fois, et vous êtes donc eh bien, parti à l'aventure avec Super Meat Boy ou avec Bandage Girl, sa dulcinée, puisque, bah, comme tout bon jeu qui se respecte, non, on a une petite histoire au début de l'aventure. Meat Boy, en l'occurrence, et Bandage Girl se sont aimés, ils ont consommé avec fougue leur passion, leur amour, et ils ont donné vie à la petite Nugget, qui est un hybride entre les deux, avec des oreilles de lapin. Et Nugget qui se fait eh bien rapidement kidnapper par le docteur Fœtus, qui est une fois de plus de retour dans son espèce de combinaison qui le protège du monde extérieur. Et du coup, eh bien, nos deux héros partent sauver leur progéniture. Et donc, je vous parlais eh bien, de milliers de niveaux. Alors évidemment, vous n'allez pas les avoir en un run. Vous commencez une partie, vous allez avoir quelques dizaines de niveaux qui vont être un petit peu tirés au sort et qui eh bien, illustrent ces nouvelles mécaniques. Donc, on court évidemment tout le temps. On retrouve les mécaniques de wall jump, de slide, on peut donner des coups par le bas, mais on a aussi un bouton d'attaque qui va permettre justement de se défaire de quelques ennemis, mais aussi de gagner un petit peu de distance, puisque lorsque vous déclenchez une attaque, votre personnage balance son poing vers l'ennemi en question, du coup, vous vous déplacez de manière horizontale, ce qui permet évidemment de prendre des trajectoires un petit peu étudiées. Et ceux qui ont joué à l'Opus de 2010 le savent, dans Super Meat Boy, la trajectoire, ça fait tout. C'est une fois de plus le cas avec ce nouvel épisode, puisque dès que vous vous faites toucher, vous mourrez et vous recommencez. Hein, c'est la règle du jeu. Heureusement, il y a de nombreux checkpoints et donc vous allez pouvoir étudier un petit peu, trouver la trajectoire optimale qui, des fois, arrive au bout de quelques dizaines, voire centaines d'essais quand on commence à s'attaquer aux niveaux les plus méchants, les Dark World, ce genre de trucs. Et alors, en soi, je sais qu'il y a pas mal de gens que ça a choqué de voir que la formule changeait à ce point-là. En soi, c'est pas forcément une mauvaise idée parce que ça relance un petit peu la donne. Et c'était pas quelque chose de rédhibitoire, en tout cas en ce qui me concerne. Le principal problème, c'est que, en fait, cette pléthore de niveaux, et puis surtout l'ergonomie, la prise en main, les choix, en fait, dans la maniabilité, plombe malheureusement l'expérience. Pourquoi je vous dis ça? Je vous parlais de l'attaque et des possibilités que vous aviez. En fait, on a quasiment tout qui est attribué à un seul et unique bouton, n'importe lequel d'ailleurs, puisque les quatre boutons de façade vous permettent de sauter, mais aussi d'attaquer. Le problème, c'est que comme on est face à un jeu de plateforme très exigeant, il faut multiplier les actions, des fois presque à la frame, en tout cas dans des fenêtres très, très rétrécies. Et on a vite fait, finalement, de s'en mêler les pinceaux avec cette ergonomie assez discutable qu'on ne peut en plus pas modifier, en tout cas pour ces fondamentaux-là. Et bah, ça donne quelque chose d'assez frustrant, finalement, parce qu'on a l'impression de ne pas avoir toutes les cartes en main pour réaliser correctement ce que le jeu nous demande. Et c'est formidable d'avoir un jeu de plateforme aussi exigeant, mais encore faut-il qu'il soit juste jusqu'au bout des doigts. Donc il y a pas mal de morts en fait qui ne sont pas de votre fait, mais qui relèvent d'une espèce de confusion autour de ces enchaînements d'actions. C'est embêtant au début et très 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 frustrant après plusieurs dizaines d'essais. Et à côté de ça, on a aussi ces niveaux pléthoriques qui finalement manquent peut-être un petit peu d'âme au bout d'un moment, puisque Refenes le dit pas, mais je pense qu'il y a un petit peu quand même de génération aléatoire, en tout cas maîtrisée là-dedans. Et finalement, on a l'impression que le level design est quand même moins fin, moins surprenant, moins goldé que dans Super Meat Boy. Ça n'empêche pas d'avoir... Pardon, phrase ?
Oui, oui, moins goldé, c'était drôle comme terme.
Oui, d'accord.
Et c'est tout.
Et ça n'empêche pas d'avoir des moments de pure extase où on va réussir une séquence parfaitement au poil de fesses et se dire waouh, je viens de passer un truc absolument incroyable. Sauf que c'est finalement assez rare, surtout quand on le compare à Super Meat Boy et qui est sorti il y a une dizaine d'années. On a l'impression d'évoluer dans des environnements qui sont moins bien pensés, moins finis quelque part que dans l'épisode original. Et certes, vous allez pouvoir profiter de configurations différentes en relançant des parties, mais comme on retrouve tout l'aspect complétiste avec, je vous le disais, les Dark Worlds qui vont se débloquer une fois que vous aurez battu un temps donné pour chaque niveau, il faut réussir à passer en dessous d'un chrono pour chacun d'entre eux, ça vous permet de débloquer la version Dark, donc la version bienvenue du niveau en question avec beaucoup plus de pièges, beaucoup moins d'espace pour vous déplacer. Vous avez ça, vous avez les items qui prennent la forme de tétines, les tétines de Nugget, qu'il va falloir récupérer puis conserver jusqu'à la fin du niveau pour finir des mondes à 100%. Et en fait, moi, je suis fait la réflexion en lançant de nouvelles parties pour avoir ce côté génération aléatoire, en tout cas découvrir de nouveaux levels. On n'a pas forcément très envie de découvrir d'autres choses alors que la première partie n'est pas encore terminée. C'est un petit peu paradoxal et du coup, je ne suis pas sûr que ces milliers de niveaux vont véritablement profiter aux joueurs. Je suis Plume parlait juste avant des gens qui éventuellement feraient le tour complet des objectifs d'Hitman. Là, c'est pareil. Les gens qui vont vouloir faire le tour un petit peu de tous les niveaux de Super Meat Boy Forever, je pense qu'ils ne vont pas être très nombreux et je pense qu'ils vont en avoir soupé au bout d'un moment. Et c'est un petit peu dommage parce que le potentiel était là. La licence est quand même bénéficie d'une aura absolument incroyable. Et là, on n'est malheureusement pas à la suite qu'on était en droit d'attendre. On a conservé plein d'éléments qui faisaient le succès du jeu original, mais ces choix d'ergonomie et puis ce turbo chier de niveau, malheureusement, dessert en fait l'expérience. Ça n'empêche pas, comme je vous le disais, de passer de bons moments, de découvrir des niveaux qui vont être parfois assez surprenants, très 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 exigeants à certains moments, mais on reste finalement un petit peu sur notre faim et c'est dommage parce que on était évidemment en droit d'attendre quelque chose d'assez chouette. Je sais que pas mal de mes confrères ont bien aimé les quelques boss qui parsèment l'aventure. Je les ai trouvés sympathiques, mais pas plus intéressants que ça, malheureusement. Les quelques boss en fait qui ponctuent les cinq mondes qu'il va falloir parcourir, ils sont symptomatiques de certains travers de Super Meat Boy Forever. C'est que il faut parfois trouver exactement le bon chemin ou le bon enchaînement d'action pensé par Refenes pour arriver au bout. Et si vous n'avez pas justement cette logique tout de suite, il va falloir la trouver, sinon vous allez vous bouffer un mur encore et encore. Et ça ajoute quelque part à la frustration de l'expérience. Et tout ça est un petit peu dommage, parce que moi, comme je pense beaucoup d'entre vous, attendais avec énormément d'impatience cette suite pour retrouver un personnage et un gameplay qu'on avait adoré. Et on n'est pas face à une... c'est pas une plantade, le jeu, il a quand même quelques qualités à faire valoir, mais quand on le compare à son illustre aîné, malheureusement, il fait un petit peu pâle figure et on peut
finalement critiqué pas mal des choix qui ont été faits par la team Meat, et pour un jeu qui a bénéficié d'un développement aussi long, c'est quand même bien dommage.
Parfait, parfait. Merci,
voilà.
Merci beaucoup. Voilà, et ceux qui veulent retrouver ton test, bah, écoute, ils peuvent sur gameblog.fr, comme toujours. Et tu avais mis quel note ?
Je l'ai mis 6 sur 10. C'est un jeu qui est satisfaisant, qui n'est pas dénué de qualité, mais qui, malheureusement, en l'état, pour l'instant, n'est pas plus que ça. Donc, si vous l'attendiez avec beaucoup d'impatience et que vous ne l'avez pas encore acheté, attendez du coup qu'il soit soldé, parce que l'expérience n'en sera sans doute que meilleure.
Et non pas goldé. Soldé ou goldé, je ne sais pas.
Non, soldé pour le coup. Okay. Les trucs qui arrivent dans pas longtemps, là.
Exact. Tout à fait. Bah, écoute, merci beaucoup. Voilà un petit peu comment s'achève l'actu, entre guillemets, des jeux qu'on a pu voir, etc. Et dont vous pouvez retrouver, évidemment... toutes les versions écrites sur le site. Et avant de se quitter pour ce petit podcast, parce que, comme vous le voyez, l'actualité n'est pas extraordinairement folle.
On redémarre, monsieur.
Exactement. Petit hommage à une personne qui nous a quittés, un certain Jonas Neubauer, qui va en parler, je ne sais pas, comme vous voulez.
Moi, je peux en parler sans aucun problème. Hein, parce que...
Petrice, vas-y.
Bah, c'était un joueur de Tetris qui est une vraie légende dans la communauté Tetris. C'est un joueur qui a gagné cette fois le championnat du monde de classique Tetris. C'était uniquement sur NES et ça se jouait dans des conditions très 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 particulières. Un mec qui a battu un nombre de records incroyable sur ce jeu, qui est mort donc il y a quelques jours, malheureusement, à 39 ans, ce qui est quand même très jeune. Et on peut voir, on a pu voir que toute la communauté, tout le monde de Tetris, et pas que justement le Tetris, hein, vraiment le monde des joueurs, a rendu hommage à ce jeune homme qui est malheureusement mort dans des conditions très brutales et qui... ça fait toujours de la peine de quelqu'un,
etc.
Voilà, ça fait toujours de la peine d'avoir quelqu'un qui part aussi brutalement et qui laisse donc sa femme derrière lui. Et on peut voir aussi que il y a une vague de solidarité qui s'est créée, puisqu'il y a une cagnotte qui a été créée justement pour essayer de monter un mémorial, de soutenir un petit peu ce joueur qui avait percé pas mal, hein, sur YouTube, qui était un joueur qui montrait beaucoup de son talent sur Tetris, qui avait balancé ses records en jouant en direct aussi. Enfin bref, c'était une vraie légende de l'e-sport avant qu'on commence à appeler ça vraiment de l'e-sport. Donc voilà, c'est dommage. Enfin, c'est dommage. C'est triste quand ce genre de choses arrive. Voilà.
Tout à fait. Voilà, donc on lui rend hommage donc à Jonas Neubauer, qui nous a quitté à 39 ans le 4 janvier dernier.
Absolument.
Mais écoutez, je ne sais pas si vous voulez rajouter autre chose, mais voilà comment s'achève le podcast 550 de la rédaction de Gameblog. Comme je disais, un petit podcast donc avec des choses qu'on a vues, qu'on a jouées, mais ce n'est pas encore la folie, ce n'est pas encore la reprise... total à laquelle on peut s'attendre dans les semaines qui viennent et les mois qui viennent, de toute façon, si la pandémie nous laisse un peu tranquille, parce que là on navigue un peu à vue quand même sur pas mal de choses. D'ailleurs, il y a pas mal de jeux PS5 qui ont été soit repoussés, datés, mais plus loin que ce qui était prévu au départ. Voilà, donc est-ce que tout le monde va faire ça dans les semaines et les mois qui viennent, on verra. Donc voilà, c'est toujours l'incertitude sur pas mal de choses dans la vie quotidienne et dans le jeu vidéo aussi, forcément. Voilà.
Et y compris les Gameblog Awards aussi.
Oui.
Dont il va falloir qu'on vous reparle très très vite.
Et vous inquiétez pas, ça arrive, les Gameblog Awards. On fera pas forcément une émission, etc. Machin, mais vous aurez les résultats une fois qu'on aura tous délibéré entre nous. Là, vous imaginez bien que c'est pas forcément ultra simple, mais... Mais ça arrive et il y aura les résultats très prochainement et ça sera.
Et vos votes. Et vos votes à vous. C'est ça aussi.
Et vos votes, bien sûr. Quels jeux vous ont plus plu cette année 2020 on vous enverra ça très très prochainement, il n'y a aucun souci. Mais écoutez, voilà, hein, merci beaucoup. Si personne n'a quelque chose à ajouter, on va dire que c'est là. Ceci est la fin de ce podcast de la rédac de cette semaine. Et puis, écoutez, on se retrouve la semaine prochaine si tout va bien. Confiné ou pas, ça, on ne sait pas. On verra.
Comme chaque semaine, on ne sait pas.
C'est total.
Ouais. Ça serait la surprise ou la mauvaise surprise, c'est selon.
Bon, toi, tu peux pouvoir te faire vacciner, non?
Ouais. Non, moi, c'est encore... Oula, c'est encore en avril, mai ou juin. Hein.
Ouais, c'est vrai.
Oh, je ne suis pas encore dans les priorités.
Ouais, t'as pas... mais t'as pas un truc caché? T'as pas, genre, je sais pas, un petit diabète qui traîne ou... Oh,
ça va, tout à fait.
Il, ah. Il cumule les tares, il est trop vieux, mais pas assez.
Ouais, bah moi je pense que je vais changer ma date, mon année de naissance. Je vais mettre 1878 sur ma carte. Voilà. Et à mon avis, je passerai en prioritaire direct. Vous allez voir.
Ah, pense à faire quelques mèches blanches quand même, parce que ça va être louche.
Tout le monde croira que c'est une perruque, tout va bien.
Bon, on sait que c'est une perruque, merci Trump. Le Trump inversé.
Le Trump.
Bon, allez, on se dit à bientôt.
Je crois que c'est sur cette belle connerie qu'on va se quitter, ouais.
Ouais. Bah, la semaine prochaine, du coup.
La semaine prochaine, si tout va bien. Et si le Capitole n'a pas brûlé d'ici là. Et,
Et la Redac.
Ouais, exactement.
Peut-être être plus
d'assaut. Les citoyens ont tout prédit. Hein. Tout prédit depuis l'éternité.
Bah ouais.
Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire.
Eh ben merci Nostradamus.
Bah, c'est les Simpsons en l'occurrence, hein, c'est pas moi.
Hein. Ah oui, non, mais comme tu nous envoies des citations de ce célèbre penseur depuis ce matin.
Exactement. Ah bah Nostradamus, tu sais, moi, ça me connaît depuis que j'ai 10 ans. Hein, donc, ouais. Bon allez.
C'est pour ça que cet homme sait tout.
Allez.
Parole chelou.
Plein de gros bisous.
À toutes et à tous, encore une fois, une bonne année. Je sais, ça fait 1000 fois qu'on vous le dit, mais c'est pas grave. Hein. Tant qu'on est au mois de janvier, on va dire que tout est permis. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine. Ciao, ciao à tous. Jouez bien.
Bisous.
Et soignez-vous bien si vous êtes malade. Ciao.
Salut.